Je m'appelle Daniel Liebman, je suis un des inculpés pour les actions menées par le collectif contre les expulsions en 98.
Alors là, lors de la conférence de presse, vous avez beaucoup insisté sur le rôle des médias dans la médiatisation des affaires, des inculpations et aussi de toute la problématique des sans-papiers. Quel est le rôle qu'ont eu les médias, en le voulant ou non, par le passé, et quel est, d'après vous, le rôle qu'ils devraient tenir?
Oui, tout d'abord, là, on est vraiment en live, donc il faut dire aux auditeurs que nous sortons d'une conférence de presse et que pendant cette conférence de presse, une bonne partie, en ce qui me concerne, de mon intervention a porté sur les journalistes. En fait, pour une raison très simple, c'est que je voulais m'adresser aux journalistes de façon directe. Je ne leur demande pas de reproduire, d'une certaine manière, ce que je leur ai dit. C'est plutôt de réfléchir avec nous sur le rôle qu'ils ont joué dans, disons, la question des expulsions et l'affaire Semira Adamou en particulier, et le rôle qu'ils vont devoir jouer ou qu'ils seront amenés à jouer à leur manière dans notre propre procès et de façon générale dans la suite du traitement de ce genre de dossier. Le fond du problème, c'est pas les journalistes. Le fond du problème, c'est évidemment la manière dont le gouvernement souhaite instrumentaliser la presse de façon à la fois à montrer qu'il est très ferme et qu'il expulse, et en même temps de montrer que tout ça se passe d'une façon humaine. Pour que les gens croient ce genre de conneries, il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les journalistes. Ce que je ne dis pas, parce que ce n'est pas mon idée, c'est que les journalistes seraient tous des laquais du pouvoir ou je ne sais pas quoi. Ce que je dis au contraire, c'est que faire leur métier est extrêmement difficile dans ces conditions. Parce que, d'une part, les informations réelles, vérifiées, eh bien, elles n'existent à peu près pas. Il y a des informations officielles qui sont des mensonges, et puis il y a ce que nous ou d'autres, on arrive à faire ressortir comme réalité à partir principalement des témoignages des victimes de cette politique. Alors évidemment, c'est toujours des témoignages non vérifiés et il y a toujours des tas de preuves avec des cachets officiels qui montrent que nous mentons, que nous exagérons, que les gens se sont tapés dessus eux-mêmes, rien que pour embêter les gendarmes, que derrière il y a nous qui faisons ça rien que pour embêter les politiciens, parce qu'on est des irresponsables, etc., etc. Ça, c'est l'idée qui se trouve dans la tête de ceux qui rédigent les rapports officiels. Et puis, il y a les idées qui sont dans le public. Et entre les deux, il y a les journalistes. Et donc, là, il y a une réflexion à entamer. À mon avis, c'est plutôt aux journalistes de l'entamer. C'est-à-dire que nous, on fait notre boulot, on leur dit ce qu'on sait, on leur fait entendre les voix des gens qui nous parlent. Et puis, en avant, eux font leur papier ou leur reportage. Bon, peut-être que il y a eu une petite anecdote là pendant la conférence de presse. Un des journalistes présents a demandé des explications sur ce qu'il appelait les reproches que nous faisons à la presse. C'est pas tellement, comme je l'ai dit, des reproches à la presse, mais je pense qu'il y a une réflexion à entamer ou à reprendre ou à approfondir parmi les professionnels des médias, en particulier sur la politique des étrangers, mais c'est loin d'être le seul dossier, bien entendu, sur comment informer le public, comment savoir et faire savoir ce qui est exact, et à partir de là, chaque journal, évidemment, reflète une opinion. Nous ne demandons pas, ça c'est quelque chose qui est absurde, personne ne demande aux journalistes de répéter ce que nous leur disons ou de diffuser notre opinion. Mais l'exigence élémentaire, c'est qu'ils vérifient ce qu'ils écrivent et ils ne le font pas toujours et pas tous. Ça c'était vraiment le point.
Oui, justement, il paraît évident que le pouvoir tente d'instrumentaliser les journalistes, mais on a quand même très souvent l'impression que les journalistes ne font pas beaucoup de problèmes au pouvoir pour se laisser instrumentaliser. C'est là que vous vouliez en venir?
Non, je ne veux en venir nulle part. Je pense réellement que ce débat est un débat professionnel de journalistes. Nous avons déjà suffisamment de discussions parmi nous pour savoir comment nous adresser à la presse. Mais là, bon, il existe des organisations de journalistes. Certaines font vraiment bien leur boulot. Je pense à la GJPD, je pense que ça s'appelle, qui avait édité en son temps un petit document, non pas sur cette question-là, mais sur une question proche. Comment parler des étrangers dans les journaux? En fait, comment ne pas être raciste quand on parle de faits ou d'événements où des non-Belges sont impliqués en Belgique? Comment être ni insultant, ni paternaliste, etc. En fait, comment se dégager du langage du pouvoir? Parce que quand on parle soi-même et que ce n'est pas le langage du pouvoir, on n'est pas raciste ou on n'est pas paternaliste. Mais dans les journaux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que la GJPB avait fait un bon travail là-dessus. Pourquoi pas qu'il le refasse sur les questions plus brutales des expulsions et des sans-papiers en général?
Vous avez aussi parlé de la conférence de presse de plusieurs hit parades. Il y a le hit parade des inculpés, où vous êtes numéro 3, il me semble.
C'est ça.
Il y a aussi un hit parade des affaires sur lesquelles s'opère la répression. Il y a notamment, vous avez cité notamment l'affaire Clabecq. Pour vous, ces hit parades sont représentatifs plus du pouvoir qui réprime ces dits
Bien
délits
sûr.
que des gens qui sont inculpés.
Ben, c'est les deux, évidemment. Hein. Aucun de nous n'est inculpé pour rien, à tort. Les accusations qui sont faites sont fausses, mais évidemment, les faits réels, à savoir manifestation tel jour, etc., ben, nous y étions. Donc le hit parade, nous y avons participé, mais ce n'est pas nous qui avons établi ni le contenu des prix, qui sont les inculpations, les chefs d'inculpation, comme on dit, ni l'ordre des inculpations. Et donc, en effet, là, on reconnaît la patte du pouvoir politique. Donc, le hit parade principal en Belgique, c'est Clabecq number one, collectif number two, et puis number three, il y en aura d'autres, parce que nous savons que à des petits niveaux, toute une série d'associations, de groupes, sans parler du mouvement syndical dans son ensemble, sont en fait sous le collimateur permanent d'agents du ministère de l'Intérieur, de l'une ou l'autre partie de ce qui s'appelle maintenant la police fédérale. On est surveillés et on est nombreux à l'être, y compris des journalistes d'ailleurs.
Ce qu'on remarque quand même, c'est que les avant-derniers de ce hit parade sont les gendarmes qui sont directement responsables de la mort de Semira Adamou, et les tout derniers du hit parade, qui ne sont même pas dans les hit parades des inculpations, sont les ministres qui sont politiquement responsables. Qu'est-ce que ça dénote pour vous?
Mais c'est très clair. Bon, ils sont out du hit parade. Hein. Le hit parade, c'est le hit parade de la contestation et de la répression de celle-ci. Donc, ils en sont out dans la mesure où ils en sont partie prenante activement. Donc, c'est eux qui l'écrivent, quoi, ce hit parade. Maintenant, c'est évident que l'injustice ici, elle est visible. Ce n'est pas la première fois en Belgique, mais ce sera peut-être plus difficile que dans d'autres situations. L'injustice a été énormément visible pendant toutes les affaires dites du mouvement blanc, où il était tellement clair que les gens dont les fautes, pour ne pas dire plus, puisqu'on n'a jamais pu approfondir la question des protections. Donc les gens dont les fautes, pour ne pas dire plus, ont conduit et aidé à la mort d'enfants, n'ont pas été poursuivis, tandis que le juge Conroth a été destitué de ses fonctions au cœur de l'affaire. Ça a fait sortir des dizaines de milliers de gens dans les rues. Je crois que le citoyen belge moyen sait que les flics ne protègent pas les enfants et les juges protègent des assassins. C'est une évidence qui est à peu près incontestée, sauf par le pouvoir, bien entendu, mais dans la population, ça a fait partie des discussions de café les plus répandues, à juste titre, pendant des mois et des mois. Alors aujourd'hui, ben, on a affaire à quelque chose qui est comparable, bien qu'il ne s'agisse bien entendu pas du même genre d'affaires, mais comparable dans la mesure où, bon, c'est nous qui avons en fait amené la question des expulsions dans l'opinion publique. Personne n'en parlait à part des associations très spécialisées qui, à juste titre, dénonçaient depuis le début des années 90 la terrible dérive que Louis Toback et Johan van de Lannoth faisaient subir au droit d'asile dans notre pays. Mais il n'y avait personne pour les entendre. Ça a commencé à être entendu quand nous avons mis les scoops à la télévision, parce que nous aussi, on veut utiliser les médias. Il n'y a pas que le pouvoir qui peut le faire pour faire taire les opinions. Nous, on peut le faire aussi pour réveiller les consciences. Donc, notre première action visible, c'était d'arrêter un fourgon de l'Office des étrangers et d'appeler RTL pour que ça se voie et surtout pour qu'on voie le jeune homme qui se trouvait détenu dans le fourgon et qui, au moment de son passage d'un fourgon à l'autre, parce que malheureusement pour le conducteur, les pneus avaient été un peu abîmés de sa voiture, donc nous avons dû obliger les gendarmes à faire changer de véhicule pour que la déportation ait bien lieu, chacun son métier, on a pu voir ce jeune homme se débattre et hurler devant les caméras de télévision. C'est un geste qui est malheureusement quotidien à l'aéroport de Zaventem, mais c'était la première fois qu'une caméra de télévision le montrait et que au JT d'RTL à 19h, eh bien, la population belge a pu le voir. Et un des premiers mensonges qui traîne depuis les années 90 est tombé d'un coup, hein, puisque les ministres de l'Intérieur successifs ont toujours dit que tout ça se passait sans la moindre violence et que les gens acceptent leur expulsion parce qu'ils ont compris qu'ils étaient malvenus dans notre pays de cocagne. Donc là, c'est cassé. Et ça, c'était cassé une fois pour toutes. Évidemment, le meurtre de Semira Adamou, le meurtre légal de Semira Adamou, donc l'application de la circulaire dite du coussin rédigée par Johan van de Lannoth, a rendu les choses encore plus visibles. Et cela, ils ne nous le pardonneront pas, mais nous non plus.